بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Heureux d'être parmi vous aujourd'hui le samedi, le 22 du mois Jumada Thania de l'année 1447 de l'Hégire, correspondant au 13 décembre 2025. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour poursuivre ensemble notre étude du livre de l'unicité de l'imam revivicateur de la deuxième moitié du 12e siècle, l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Kitabu al-Tawhid, le livre de l'unicité. Donc, on s'est rendu au 46e chapitre de ce livre, toujours dans le cadre de la dernière partie du livre, dans tous ces chapitres dans lesquels l'auteur, rahimahullah, traite des sujets qui sont en lien avec les règles de politesse que nous devons avoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certaines règles dont le respect fait partie de la perfection de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la négligence à leur sujet conduit à une diminution de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et à un manque de adab vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la plupart de ces chapitres concernent des expressions ou des propos qui rentrent dans ce cadre-là. Donc, après le chapitre dans lequel nous avons parlé d'insulter le temps et que cela porte préjudice et quelque chose qui nuit à Allah subhanahu wa ta'ala sans lui faire du mal, car personne ne peut faire du mal à Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin, ce qui nuit, c'est ce que les gens, même vis-à-vis de la créature, c'est ce que la créature déteste. Mais pas toute chose qu'on déteste, en l'entendant, nous fait forcément du mal. Ou toute chose que nous détestons voir également. Ou les choses que nous détestons sentir également. Et ainsi de suite. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala est décrit par l'adha, mais il n'est pas décrit par ad-durr. C'est-à-dire, personne ne peut faire du mal à Allah subhanahu wa ta'ala. Là qu'il y a des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste, et ça lui nuit de les voir ou de les entendre. Parmi ces choses-là, insulter le temps, car le temps est la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le temps est la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un autre point que l'auteur rahimahullah intitulé « Babu al-tasammi biqadi al-qudati wa nahwihi ». Donc, un chapitre au sujet de l'appellation « Le juge des juges » et ce qui y ressemble, yani ce qui est semblable à ces appellations et qui prend le même jugement. Donc, comme vous le constatez, il est sujet de se faire appeler le juge des juges, ou ce qui ressemble à cette appellation, comme le roi des rois, et ainsi de suite. Donc, ces appellations sont interdites, et on ne peut pas les attribuer à une créature, car le juge des juges, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et le roi des rois, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les citer comme ça, d'une manière absolue, ça ne convient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui donne ces appellations à des créatures, ou qui demande à ce qu'on l'appelle de cette manière, en réalité, il peut tomber dans une forme d'associationnisme, que ce soit une forme d'associationnisme au niveau de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au niveau de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il aura donné à Allah subhanahu wa ta'ala un associé dans un attribut qui est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le juge des juges. Et donc ça, c'est plutôt une forme d'associationnisme dans les noms et les attributs. Et dans la seigneurie, comme vous savez, c'est l'unicité d'Allah, qui consiste à lui attribuer tous les actes qui lui sont propres. Donc, cet attribut, cette appellation, elle comporte un acte, qui est l'acte du jugement absolu, indiscutable, que personne ne peut rejeter et qui s'impose à tout le monde. C'est le jugement du juge des juges. Et c'est le pouvoir et l'autorité du roi des rois. Et ça, cet acte, il est spécifique à Allah. Donc celui qui l'attribue à une créature, il aura commis une forme d'associationnisme dans la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ce chapitre, vous voyez qu'il est très lié au chapitre précédent. Il consiste à une nuisance et à un préjudice qui est porté à Allah subhanahu wa ta'ala en attribuant ses appellations à certaines de ses créatures, car elles comportent des sens de la magnificence et de la gloriole et de la grandeur et l'immensité qui ne convient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Qui ne convient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça va être le sujet traité dans le chapitre suivant, qui consiste à, il a appelé Bab Uhtirami Asma'illah, le respect des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière, on doit changer le nom si c'est un nom qui comporte des sens comme cela que nous venons d'évoquer. Taïb. Donc ça, c'est le jugement de ces appellations quand elles sont citées d'une manière absolue. Quel est le jugement si on les conditionne, que ce soit par un pays, par exemple, dire le juge des juges du Maroc, ou d'Algérie, ou de l'Égypte, ou d'Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, il y avait cette appellation, mais elle a été changée par le grand juge d'Arabie Saoudite. Le grand juge d'Arabie Saoudite. Et ça, et en plus, ni que ce soit conditionné par un pays qui sort l'appellation de l'interdiction, quand on dit le juge des juges d'Arabie Saoudite ou du Maroc, il n'y a plus l'interdiction. Ça devient autorisé. Ou qu'on la conditionne par exemple, une tribu, de dire le juge des juges de la tribu, d'une certaine tribu, de la tribu de Quraysh, ou des choses comme ça. Donc que ce soit conditionné par, spécifié par un pays ou une tribu, ou une époque. Par exemple, le juge des juges, d'une certaine période, tel savant était le juge des juges pendant cette période-là. Et même dans ces cas-là, il est meilleur de ne pas utiliser ces appellations, parce que ça peut prêter à confusion. Lakin, si c'est conditionné, ça reste autorisé. Ou de dire le savant des savants, ça aussi, ça rentre dans l'interdiction. Car le savant des savants, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin, par exemple, dire « Alimul ulama'i fil jarh wa ta'dil » le savant des savants de notre époque, dans la science de la critique et l'éloge, ça c'est autorisé. Mais même, il reste préférable de ne pas utiliser, de ne pas employer ces appellations, parce que ça peut faire tomber dans l'exagération. Et ça peut prêter à confusion. Taïb. Dans ce chapitre, l'auteur, rahimahullah, n'a mentionné qu'un seul hadith. Hadith Abi Hurayra radiyallahu anhu, que le prophète, alayhi sallam, a dit Inna akhna asmin inda Allahi rajulun tasamma malik al-amlak la malika illa Allah qala Sufyanu mithlu shahan shah مثل شاهان شاه وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه قوله أخنع يعني أوضع. Donc ça, c'est le hadith que l'auteur, rahimallah, a cité dans ce chapitre, selon Abu Huraira, le prophète, alayhi sallam, a dit, le plus vil des noms auprès d'Allah est celui qui se fait appeler le roi des rois. Il n'est de roi qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est de roi qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le roi des rois, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un attribut, c'est une description qui ne convient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin, le roi du Maroc, le roi d'Arabie Saoudite, le roi d'Hollande, et ainsi de suite, c'est des appellations qui sont autorisées. Il y en a déjà, on n'utilise pas le roi des rois, et c'est ça qui donne la forme d'exagération, et en plus, c'est conditionné par un pays. Sufyan, rahimahullah, Sufyan, qui est Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah ta'ala, a dit, en donnant des exemples, et pour faire comprendre que ce hadith n'est pas spécifique à cette appellation en particulier, avec ces termes. Tout ce qui donne le même sens rentre dans l'interdiction, même si c'est dans une autre langue. Il a dit, comme celui qui se fait appeler Shahan Shah. Et Shahan Shah, ça signifie également, ça signifie le roi des rois. Dans la langue perse, Farisiya. طيب. Et dans une autre riwaya de ce hadith, une autre version, le Nabi alayhi sallam a dit, c'est l'homme qui أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. يعني c'est l'homme le plus détesté par Allah subhanahu wa ta'ala et le plus mauvais le jour de la résurrection. Donc أخنع signifie أوضع, le plus bas, le plus vil, le plus humilié. Qui sera le plus humilié? C'est celui qui se fait appeler ainsi, le roi des rois, ou la toute appellation qui a le même sens. Donc, comme nous avons vu, même si c'est dans une autre langue, si on l'appelle en français, le roi des rois, ça c'est une appellation qui n'est pas autorisée. Et en résumé, si c'est conditionné par un pays ou par une époque, ça devient autorisé et ça reste préférable de la délaisser. Mais ça reste quand même interdit si ça peut faire tomber dans une forme d'exagération au sujet de cette personne ou faire tomber la personne elle-même dans l'orgueil ou la vantardise et ainsi de suite. La même chose pour le juge des juges. Le roi des rois, le juge des juges, c'est le même jugement. Il a été rapporté d'Ibn Hajar, rahimahullah, il a dit, Ibn Hajar, rahimahullah, a dit dans Fath al-Bari, il a dit au sujet d'un savant qui s'appelle Izzuddin ibn Jama'a, connu, qui a le livre qu'on a déjà fait ensemble, Tadkirat al-Sami'. Un livre très profitable dans les règles de bienséance concernant la demande de science. Ils disent que cet homme de science, comme a rapporté Ibn Hajar, il était appelé le juge des juges. Il était appelé le juge des juges. Et avant lui, son père portait la même appellation. Car c'était un grand savant également. Son père, il est d'une famille de science. Et il l'a vu dans un rêve. Il lui a dit, quelle est la chose qui t'a porté le plus préjudice auprès d'Allah? Qui t'a causé le plus de tort auprès d'Allah? Il lui a dit cette appellation, le juge des juges. Et après ce rêve, Ibn Jama'a il a demandé aux gens de changer cette appellation pour lui, de ne plus appeler ainsi, et il a choisi l'appellation le juge des muslimines. Le juge des muslimines. Ça a été rapporté par Ibn Hajar dans Fath al-Bari. Voilà, mes frères, pour ce chapitre. On va passer au chapitre suivant, car yani, ils sont proches l'un de l'autre, et aussi c'est un chapitre très court, dans lequel l'auteur, rahimahullah, n'a cité qu'un seul hadith. Il a dit, chapitre sur le respect des noms d'Allah et le fait de changer le nom pour cela. Donc, le croyant se doit de respecter les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et de croire qu'ils sont sublimes dans leur sens et qu'ils sont parfaits dans leur signification et qu'ils ont atteint le summum de la perfection, tous les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, le spécifier par ses noms et ses attributs. D'où le devoir de changer le nom, si jamais c'est un nom qui est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme vous savez, il y a des noms qui sont spécifiques à Allah subhanahu wa ta'ala, car ils comportent des significations qui ne conviennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'orgueilleux, al-mutakabbir, comme al-jabbar, et ainsi de suite. Comme al-Rahman, comme Allah. Donc, il y a des noms qui sont spécifiques à Allah, car ils comportent des sens qui ne conviennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des noms qui sont communs entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses créatures. Mais quand ces noms sont attribués à Allah, Allah a le summum de la perfection de leur signification, qui correspond à sa grandeur et sa magnificence et sa majesté et sa gloire et sa pureté, subhanahu wa ta'ala. Et quand ces noms sont attribués à une créature, ça va correspondre à son degré et à son état de pauvreté et de faiblesse et d'impuissance et de dépendance totale d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, il est le Karim, et on peut appeler une créature le Karim ou Karim. Les deux. Allah, il est l'Aziz, on peut appeler quelqu'un Aziz ou l'Aziz, comme dans le Coran, l'Aziz de Misr. Lakin, la générosité du Créateur, c'est pas la générosité de la créature. Le Créateur, il est généreux avec ce qu'il possède, lui, et avec ce qu'il a toujours possédé. Et la créature, elle est généreuse avec ce que Allah lui a octroyé, et ce qu'elle possède pendant un laps de temps. Ça peut être, grand maximum, la durée de sa vie. Après, ça revient aux héritiers. Allah, il est généreux, il donne sans compter. La créature, elle peut jamais être comme ça. Même si celui qui t'aime le plus, si tu lui demandes tous les jours, il finira par être lassé. Même si c'est ta propre mère, ton propre père, il te donne en faisant des efforts. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le généreux par excellence. Subhanahu wa ta'ala. Et la créature, quand elle donne, ça diminue ses biens. Allah, il donne, ça diminue en rien ses biens. Quel que soit ce qu'il a donné, même s'il donne à toutes ses créatures toutes leurs demandes, ça ne diminue en rien ses richesses et ses trésors, subhanahu wa ta'ala. Et ainsi de suite, parmi les nombreuses différences entre l'attribut quand il est accordé à Allah subhanahu wa ta'ala ou à sa créature. Toujours une règle très importante, l'écart entre l'attribut du créateur et l'attribut de la créature, comme la parole du créateur et la parole de la créature, tout attribut, l'écart qu'il y a entre cet attribut chez le créateur et chez la créature, c'est comme l'écart qu'il y a entre le créateur et la créature. Alors, ça vous laisse vous imaginer yani, cet écart qu'il y a entre les deux. Taïf. Donc, par rapport à ce chapitre, qui est yani, semblable à celui qui l'a précédé, lakin, peut-être, parmi les différences entre les deux chapitres, parce que les hommes de science, ils essayent de donner des explications quand il y a deux chapitres qui se ressemblent dans le livre de l'unicité, là dans les ouvrages. Ils savent que l'auteur ne cherche pas à se répéter. Donc forcément, il y a une nuance. Des fois, elle peut être subtile. Comme dans l'ouvrage de l'imam al-Bukhari. Pourquoi il a cité ce hadith à tel passage, à tel endroit dans son livre et pas à un autre, et ainsi de suite. Donc ici, les hommes de science, ils ont dit que parmi les différences qu'il y a entre ce chapitre qu'on vient de terminer et celui qu'on nous allons voir maintenant, ils ont dit, il y a ni le devoir de changer les noms, si ça comporte un manque de respect vis-à-vis des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit, ça, et le chapitre, ce chapitre, ça donne le jugement de quelqu'un à qui on a donné un attribut qui ne correspond qu'à Allah subhanahu wa ta'ala pour une chose qu'il fait réellement. Pour une chose qu'il fait réellement. Et peut-être que lui n'a pas choisi cela. Les gens lui ont donné cette appellation parce que à cause d'une chose réelle qu'il fait. Lakin, cette appellation comporte une certaine forme d'exagération. C'est pour ça qu'il est obligatoire de la changer. Comme dans ce chapitre, Abu al-Hakam. Donc on va lire le hadith que l'auteur rahimahullah a cité selon Abi Shuraih. Abu Shuraih a rapporté que qu'on le surnommait, et ça c'est même avant l'islam, on le surnommait Abu al-Hakam. À la base, c'est une kunya, un surnom qui est autorisé à la base. Lakin, pourquoi le Nabi a ordonné à cet homme de changer son surnom, sa kunya? Donc il dit, Abu Shuraih lui-même, il rapporte le hadith, il dit qu'il était surnommé Abu al-Hakam. Et le prophète a.s.w. lui a dit, Inna Allah huwa al-Hakam. Allah, c'est lui le juge. Wa ilayhi al-hukm. Et c'est à lui qu'il appartient de juger. Le jugement, il est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les juges, quand ils jugent, en réalité, ils jugent avec le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils font l'effort pour juger avec le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça leur devoir. Quand bien même ils peuvent se tromper. Lakin, leur devoir, c'est de faire de leur maximum quand ils ont les outils et qu'ils sont habilités à faire les efforts, alors ils vont faire les efforts pour être dans le même jugement que celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une ambiguïté que les premiers khawarij ont eue. Ils ont dit comment Ali fait juger des hommes alors que le jugement appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en réalité, Ali radiallahu anhu, il n'a pas fait juger des hommes avec leur propre jugement ou avec des jugements qu'ils ont inventés. C'est pour donner le jugement d'Allah tout simplement. Mais c'est qui sinon qui va donner le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est bien des hommes. Pour ça, en islam, il y a des juges et ainsi de suite pour donner le jugement d'Allah. C'est leur devoir. Taïb. Donc le prophète A.S. lui a dit, c'est Allah al-Hakam, le juge. Et c'est à lui qu'il appartient de juger. Abu Shuraih radiallahu anhu a dit à ce moment au prophète A.S. il lui a dit, il a essayé de justifier pourquoi on l'a surnommé comme ça. Il a dit, Inna qawmi idha akhtalafu fi shay'in atawni fa hakamtu baynahum fa radiya kila al-fariqayni fa qala ma ahsana hadha. Donc Abu Shuraih l'a dit au prophète, il lui a dit au messager d'Allah, mon peuple, quand les gens de ma tribu, plutôt ma tribu, quand les gens de ma tribu divergeaient au sujet d'une question ou là d'une affaire, ils venaient me voir et je jugeais entre eux et les deux groupes étaient satisfaits de mon jugement. Donc Abu Shuraih, il jugeait et son jugement était indiscutable. Tout le monde l'acceptait. Personne ne s'opposait à son jugement. Personne ne discute son jugement. Personne ne remet en cause son jugement. Et ça, c'est spécifique à Allah. C'est spécifique à Allah. Alors que pour les créatures, le juge, comme bien même c'est un savant, il fait son effort et il juge pour juger avec le jugement d'Allah, il peut se tromper. C'est pour ça que le Nabi a montré que celui qui fait les efforts pour être dans le même jugement que celui d'Allah et qui est dans le jugement d'Allah, il sera récompensé deux fois. Et celui qui se trompe, il sera récompensé une seule fois. Bien évidemment, ça c'est pour ceux qui sont habilités à le faire. C'est pas pour tout le monde. C'est pour celui qui est habilité à juger entre les gens. Et dans la science, c'est pour celui qui est habilité à faire des fatwas et émettre des avis juridiques. C'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui ont les outils de la science. Taïb. Donc, quand il a dit ça au prophète alayhi salam, le Nabi alayhi salam lui a dit, ceci est très bien. Le fait qu'il revienne vers toi et que tu résous leurs problèmes et tu leur donnes un jugement juste auquel ils se tiennent tous, à la base, c'est une bonne chose. Il lui a dit, ceci est très bien. Après, il lui a dit, combien as-tu d'enfants? Il a dit, j'ai Shuraih, Muslim et Abdullah. Il a trois garçons. Il lui a dit, kam laka min al-walad? Il lui a dit, fama laka min al-walad? Qala Shuraihun wa Muslimun wa Abdullah. Qala faman akbaruhum? Il lui a dit, qui est le plus grand d'entre eux? Qui est l'aîné de tes fils? Il lui a dit, Shuraih. Il a dit, قال عليه الصلاة والسلام, فأنت أبو شريح. Il lui a dit, alors, ton surnom, c'est Abu Shurayh. Et on tire de cela que c'est préférable d'avoir un surnom avec l'aîné de nos enfants. Avec l'aîné de nos enfants. Par exemple, si l'aîné s'appelle Abdullah, c'est préférable d'avoir un surnom Abu Abdillah. Et c'est préférable d'une manière générale, et c'est une sunna, d'avoir un surnom, une kunya, qu'on ait un enfant ou même avant le mariage. C'est pour ça, Aïcha radiallahu anha, sa kunya, c'était Ummu Abdillah, comme bien même, elle n'a jamais eu d'enfant. Mais sa kunya, c'était Ummu Abdillah. C'est pour ça, c'est une sunna d'avoir une kunya, et de se faire appeler par la kunya, également, de l'utiliser entre nous. Ou de se faire appeler par le prénom également. Donc le prophète A.S. lui a dit, ceci est une bonne chose. Yani, quelle est la chose qui est un bien dans l'affaire de Abu Shurayh radiallahu anhu? C'est le fait de réconcilier les gens de sa tribu. Et non pas une bonne chose que tu te fasses qu'il t'appelle Abu al-Hakam. Car le prophète A.S. a changé ce surnom. Lakin, ce qu'il a approuvé, c'est le fait de juger entre les gens de sa tribu et de trouver un terrain d'entente entre eux et de les réconcilier avec un jugement juste et équitable. Et que tous ils l'acceptent. Ça, c'est une excellente chose. Donc, il lui a dit, كيف قال النبي عليه الصلاة والسلام, قال, فما لك من الولد. الولد, comme vous savez en langue arabe, ça se dit du fils et de la fille. Du garçon comme de la fille. On dit walad. Et, est-ce que Abu Shurayh n'avait que des garçons? C'est ce qu'on comprend de ce hadith. C'est qu'il n'avait que des garçons. S'il avait des filles, il les aurait citées. Car on peut avoir comme surnom Abu Aisha, Abu Fatima, Abu Khadija, et ainsi de suite. C'est autorisé que le surnom soit avec l'aîné, et ça c'est préférable, et c'est autorisé qu'il soit avec autre que l'aîné, et même avec un enfant qu'on n'a pas, comme on a vu avec le cas de Aïcha radiallahu anha. Là, ce qui est préférable, selon ce que le Nabi a fait ce hadith, dans ce hadith, c'est de choisir l'aîné parmi eux. Et ça, c'est une règle générale. en islam, on donne la priorité à l'aîné. Ça, c'est une règle générale. Il y en a qui se trompent et pensent que la règle générale en islam, c'est de donner la priorité à celui qui est à droite. Et ça, c'est pas vrai. En islam, la règle générale, c'est de donner la priorité à celui qui est le plus âgé. Le plus âgé. Sauf dans des cas exceptionnels où il y a des textes où on donne la priorité à celui qui est à droite. Comme pour donner à boire. Si tu veux donner à boire à des gens qui sont réunis, tu commences par celui qui est à droite. Pour ça, le Nabi alayhi salam, quand il voulait donner à boire à Abu Bakr, qui était à sa gauche, et à sa droite, il y avait Ibn Abbas, le jeune, radiallahu anhu, il lui a demandé l'autorisation de servir tout d'abord Abu Bakr. Ibn Abbas a refusé. Il a dit, c'est mon droit, je le garde. J'aimerais être le premier à boire après toi au messager d'Allah, alayhi salam. Et il lui a donné à boire en premier. Donc la règle en islam, c'est qu'on donne, on donne la priorité à celui qui est le plus âgé. Celui qui est le plus âgé, sauf s'il y a un dalil spécifique. Par exemple, comme dans diriger la salat. Diriger la salat, on ne commence pas par le plus âgé. On commence par celui qui mémorise le plus de Coran. Comme pour faire rentrer les gens dans leur temple. On commence par celui qui mémorise le plus de Coran. Et ici, on peut dire que c'est celui qui est grand dans le mérite. Celui qui est grand dans le mérite. Et après vient celui qui est grand dans l'âge également. Taïb. Donc le prophète, alayhi salam, en résumé par rapport à ce chapitre, a changé le surnom de Abu al-Hakam en Abu Shuraih. Pourquoi? Pourquoi il a changé ce prénom? Parce que Al-Hakam, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, comme le Nabi alayhi salam lui a dit. Et donc si on dit Abu al-Hakam, c'est comme si on a dit Abu'l-Lah. Et ça, c'est mauvais. Donc ça, c'est la première chose qui a été dite. Pourquoi le Nabi alayhi salam a changé ce prénom? Là, ce que la plupart des savants disent, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymin, même le premier, il l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dans Majmou' al-Fatawa de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Et le deuxième point, pourquoi le Nabi alayhi salam a changé cette kunya, ce surnom, parce que cette kunya, comme on l'a compris, ça comporte un sens qui ne convient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui juge et dont le jugement est indiscutable et personne ne peut le remettre en cause ou le discuter ou le rejeter, c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. C'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça cette appellation ne convient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Yani avec le sens que ça comporte dans ce cas en particulier. Notez bien ça. Parce que là, c'est pas seulement Abu al-Hakam. C'est Abu al-Hakam et son jugement n'est jamais remis en cause. Son jugement est indiscutable. Personne ne s'oppose à son jugement. Personne ne remet en cause son jugement. Tout le monde accepte son jugement. Donc c'est pas seulement la kunya, mais la kunya avec le sens que ça comporte dans le cas de Abu Shuraih. C'est pour ça que le Nabi alayhi salam l'a changé. Et ça nous donne l'obligation de changer les prénoms et les appellations et les surnoms quand ils comportent ou bien des mauvais sens ou des sens qui ne conviennent pas à la grandeur et la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala, des sens qui conviennent seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou si ça peut prêter confusion. Également. Ou si ça peut être une cause d'orgueil chez celui qui est appelé ainsi. Le jour où quelqu'un s'oppose à son jugement, il dit, mais moi, personne ne s'oppose à mon jugement. Tout le monde accepte. Donc, ça c'est par rapport à ce chapitre. Que dire de ceux qui se font appeler Abd al-Nabi? Ça, c'est un prénom qu'on doit changer également. Parce qu'on n'est pas Abd al-Nabi, on est Abdullah. Al-Nabi, lui-même, est un Abd. C'est comme si tu disais, moi je suis Abd, Abdullah. Le Nabi, c'est Abdullah. Donc c'est comme si tu disais, moi je suis le serviteur du serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette servitude, dans le sens adoration et dévotion, elle est exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà mes frères, pour aujourd'hui, pour ces deux chapitres. Et la semaine prochaine, nous allons parler d'un chapitre d'une très très grande importance, un phénomène qui est très répandu malheureusement, le fait de prendre en sujet de moquerie et de raillerie les choses qui comportent l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou le Coran, la parole d'Allah, ou le messager, ou la toute chose qui est en lien avec la religion. Nous allons voir le danger de cela, et son jugement, et les différents cas que nous trouvons dans ce point-là. Bi'idnillah, si Allah nous prolonge notre vie jusqu'à la semaine prochaine. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.